L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Nous sommes en 1929, à Somorrostro, quartier ouvrier de Barcelone, aujourd'hui disparu, sous les hordes de touristes. Entre une usine, un hôpital et le bord de mer, de petites cabanes sont mêlées, dans un bric-à-brac sans eau ni électricité. Des chats déambulent, des enfants jouent dans les ruelles de terre et leur palaisent derrière eux des nuages de poussière. Dans l'une de ces petites cabanes, Carmen Amaya s'agite devant le miroir de sa chambre. Elle a enfilé ses grands anneaux dorés et attaché ses cheveux dans un gros chignon serré. Sa robe rouge à pois blancs est ajustée, mais son visage encore poupon ne la satisfait pas. Des boutons d'acné ont fait leur apparition sur le front. Généralement, elle s'en fiche. Il n'y a pas besoin d'être jolie pour danser. Une fois que son père se met à la guitare, Carmen n'entend plus que les notes de musique. Le rythme des claquements de mains, elle s'élance alors sans plus penser à rien. C'est un rituel qu'elle connaît. Elle a ses habitudes et sa nonchalance témoigne de son aisance. Mais aujourd'hui, tout a une saveur particulière. Sa mère l'appelle. Carmen, vamos, il est l'heure d'y aller. Et même le son de sa voix semble différent. Nous sommes le 20 mai 1929. Le soleil brille, il éblouit les passants. Du haut de ses 16 ans, Carmen est loin d'imaginer que, des décennies plus tard, nous nous rappellerions de ce jour de printemps. Il est 15h45, c'est l'heure H de mon histoire. Carmen se laisse guider par son père. Tous deux rejoignent le centre de Barcelone et ils transpirent sous leurs vêtements trop serrés. Carmen peste contre sa robe dans laquelle elle se prend les pieds et son chignon trop serré lui donne mal à la tête. Mais l'excitation prend le dessus lorsqu'elle se retrouve au pied du Montjuïc. La colline surplombe le port et la ville de Barcelone. Carmen relève les yeux et son père lui sourit en silence. Le paysage semble infini et absolument fabuleux aux yeux de la jeune fille. La colline est méconnaissable. Elle a l'air remodelée de toutes parts. Des fontaines sont apparues et des installations accueillent un public venu du monde entier. Nous y sommes. Plus que quelques mètres à gravir, plus que quelques minutes à passer et Carmen dansera pour l'inauguration de l'exposition universelle qui a lieu à Barcelone. Vous avez bien entendu, l'adolescente qui vient de se remaquiller dans la glace fissurée de son bidonville se produira dans quelques instants devant le roi d'Espagne, Alphonse XIII. Carmen rit. Elle rit parce que ça semble tellement absurde que des gloussements nerveux s'échappent de ses lèvres avant de se transformer en un ricanement. L'adolescente émerveillée mais rebelle roule maintenant des yeux devant tous ses ornements et son sourire devient presque carnassier. Elle longe les couloirs somptueux de l'édifice et ne sait plus quoi penser. Elle est partagée, confuse. Derrière l'excitation et les étoiles plein les yeux, une boule s'est formée au creux de son ventre. Mais ce n'est pas le moment de s'apitoyer, ni de tergiverser. Puis peut-être son estomac n'a-t-il tout simplement pas digéré les sardines qu'elle a avalé à toute vitesse ce midi. La jeune femme raffole de ces petits poissons qu'elle fait cuire sur le feu, à même le sol, et elle s'en est empiffrée tout l'après-midi. Donc, faut pas s'étonner d'avoir une brique au fond de l'estomac. Ah, eres señorita Amaya. Une femme d'une cinquantaine d'années déboule et sort Carmen de ses pensées. Lui indique le chemin de sa loge. Précipitée, Carmen se retourne vers son père, qui la laisse là, sans avoir le temps de lui dire un mot. Mais il est confiant. Il connaît sa fille. Rien ne lui fait peur. C'est une jeune femme solide, et il ne doute pas un instant qu'elle assurera ce soir. Assis dans le public, il croise simplement les doigts, en espérant qu'elle respectera les consignes à la lettre, et qu'elle tiendra bon dans sa tenue étriquée. L'heure tourne et il ne reste plus que 10 minutes avant que Carmen fasse son entrée. Dans les coulisses, la jeune femme suffoque. Des gouttes de sueur perlent déjà sur son front. Elle respire, elle tente de se calmer. On l'appelle la capitana, c'est-à-dire la chef, la capitaine. Alors, c'est pas le moment de se dégonfler. Elle ferme les yeux et, comme d'habitude, avant de monter sur scène, une même image apparaît derrière ses paupières. Un souvenir devenu flou avec le temps, mais qu'on lui raconte souvent. Elle, la petite Carmen, du haut de ses 4 ans, accompagnant son père pour la première fois. Son père, surnommé El Chino, est guitariste de flamenco et n'a pas hésité un instant. Dès que sa fille a pu marcher, il l'a fait danser. Il l'emmène dans les restaurants de Barcelone et il ne faut pas être un grand connaisseur pour pouvoir remarquer que la petite a du talent. Carmen fait tourner les regards. Elle n'est qu'une enfant et sa naïveté et sa fraîcheur transcendent sa danse. Les spectateurs assistent à quelque chose de brut, d'entier. Rien n'est calculé. La petite joue avec son corps sur la musique de son père sans respecter aucun code. Et cela rend son flamenco intense, comme habité. Carmen danse pieds nus, dans un bête pantalon en toile, le visage parfois grave. Carmen danse parce qu'elle ne sait faire que ça. C'est ainsi qu'elle s'exprime, qu'elle vit, qu'elle respire. Mais elle danse aussi pour nourrir sa famille. À Somorrostro, les conditions sont difficiles. Les baraquements résistent difficilement à la météo et à la mer qui envahit parfois tout le quartier. Alors Carmen grandit en dansant les pieds dans l'eau salée, sur la terre sèche, sur la tôle ondulée ou dans les rues de Barcelone pour récolter un peu de monnaie. À travers ses mouvements, elle raconte ce qui la bouleverse, la fait rire ou pleurer. Ses pieds martèlent le sol, ses bras s'élancent dans les airs et il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que son talent se fasse repérer. Son art est bien loin des artifices et du flamenco à touristes. Mais la gitane fougueuse séduit et Carmen séduit la capitale. Elle ira à Madrid où elle intégrera des troupes avec lesquelles elle tournera dans le monde entier. Carmen est la capitana. Mais en elle, la petite fille n'a jamais disparu. Et cette fillette ne la quitte jamais sur scène, sauf peut-être aujourd'hui. On frappe à la porte de la loge. Carmen relève la tête brusquement, presque étonnée d'avoir été coupée dans ses pensées. Elle réatterrit dans la loge de ce soir de mai 1929. Il est 20h et c'est à son tour. Dans un brouhaha lointain, elle entend le public se taire progressivement. Le silence se fait dans la salle. Elle se lève, aperçoit son reflet dans le miroir et se reconnaît à peine. Alors soudain, une envie de pleurer l'envahit. Tout cet accoutrement, cette fleur-là dans ses cheveux, cette robe à pois, ses talons, son châle, tout la rebute. Elle a l'impression d'étouffer. La petite fille en elle lui crie de tout arracher, mais elle imagine son père dans la salle, fier, impatient. Carmen, il faut aussi pouvoir s'adapter. L'occasion est énorme, pense à la suite et puis tu ne pourras pas jouer en chemise pantalon toute ta vie. Poussée dans le dos par l'équipe en loge, la jeune adolescente, tiraillée, ouvre le rideau rouge. Les gens applaudissent, le noir tombe sur la salle et la danseuse fait son entrée.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans leur H, je vous raconte l'histoire de Carmen Amaya, l'iconique danseuse de flamenco. En 1929, Carmen Amaya a 16 ans et s'est déjà construit une jolie réputation. L'adolescente, qu'on surnomme la Capitana, danse depuis l'âge de 4 ans avec son père, qui l'emmène dans les bars et les restaurants. À 12 ans, la danse spontanée et sincère de la jeune fille commence à être reconnue et Carmen commence à se produire professionnellement. Mais aujourd'hui est un jour vraiment particulier. Carmen monte sur une scène située sur le haut de la colline Montjuïc, à Barcelone, pour l'inauguration de l'exposition universelle. Rien que ça. L'occasion est exceptionnelle. Dans la salle, le public est un cocktail de personnalités influentes, de membres de la noblesse, de politiques, de spectateurs venus du monde entier. Et le roi d'Espagne, Alphonse XIII, est là, en chair et en os, pour assister à sa prestation. Après de longues discussions avec ses parents, Carmen a accepté d'adapter sa performance. Promis. Promis, elle fera un effort. Elle soignera son apparence et son art, car hors de question de se ridiculiser. Il s'agit du roi, quand même. Alors, Carmen a accepté, en serrant les dents, de porter une longue robe rouge à pois blancs et des chaussures à talons. Elle a même ajouté des fleurs dans ses cheveux plaqués sur son crâne. Mais là, derrière le rideau, à une seconde de faire son entrée sur scène, la jeune femme a la sensation d'étouffer. Le col de sa robe l'enserre. Ses bas ne cessent de glisser. Ses chaussures lui font mal aux pieds. Pourtant, la jeune femme se retient de tout envoyer valser en pensant à son père dans la salle. Sa prestation est un des moments les plus attendus. Alors, endimanchée, dans une tenue de petit chounon, l'adolescente ouvre le rideau, décidée à leur en mettre plein la vue. Carmen entre en scène, le public applaudit. Elle l'entend murmurer, déjà impressionnée. Elle se place au centre de la scène, relève les bras au-dessus de sa tête et s'immobilise. Sa mâchoire carrée est crispée. Ses traits foncés semblent l'être encore plus que d'habitude. Carmen sent sa poitrine se soulever au rythme de sa respiration. Lorsque le guitariste place ses mains sur les cordes, prêt à se lancer. Et puis ça y est, c'est parti. La musique démarre et l'envahit immédiatement. La magie du flamenco opère toujours. Les mains du musicien courent sur les cordes et instantanément, l'énergie recircule en elle. Plus rien d'autre n'existe. Las Palmas, autrement dit, les claquements de mains de Carmen fendent l'air et accompagnent ses pas avec précision. Ses pieds martèlent le sol et les gouttes de sueur coulent dans son dos. Les musiciens l'encouragent et ponctuent ses mouvements les plus périlleux en soufflant des « Olé, venga !» Carmen danse et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Les petits moments de silence qu'elle s'impose généralement pour laisser respirer la danse ou marquer les à-coups de son corps ont ici disparu. Elle enchaîne les mouvements avec une rapidité telle qu'on entend le public s'extasier. Son père est bluffé. Les mouvements de sa fille sont précis et Carmen semble habiter la salle entière. Mais dans le regard de son père, on peut aussi apercevoir une pointe d'inquiétude. Il voit, dans les mouvements de sa fille, une rage qu'il n'a encore jamais vue et il espère qu'elle tiendra jusqu'au bout. La robe de Carmen fend l'air, ses talons claquent sèchement le sol en bois, les sourcils froncés, le regard intense, elle tournoie, elle ondule, ses mouvements ne cessent de s'accélérer. La danseuse se déchaîne et la tension continue de monter. Dans celle-ci se trouve toute la frustration de Carmen, ses contradictions, ses colères. Comment a-t-elle pu accepter un tel accoutrement? L'enfant en elle se sent trahi, oublié dans les coulisses. Comment a-t-elle pu basculer si vite, de l'autre côté? Dans le monde superficiel de tous ces nobles qui regardent cette jeune fille tout droit sortie d'un bidonville décorer leur soirée. Elle se sent comme une bête de cirque. Et puis soudain la fierté réapparaît et fait bomber son torse. N'avait-elle pas envie de réussir? N'était-ce pas ça, la réussite? Certes en robe, mais si danser devant le roi n'est pas une victoire, je sais pas ce qu'il te faut, se dit-elle avec hargne. Ses mains claquent sur ses cuisses, sur son torse, sur ses talons et son châle virevolte dans tous les sens. La musique s'emballe, Carmen aussi, jusqu'au point d'apogée, et puis le noir. La danseuse s'arrête immobile. Dans sa première pose, son regard est perçant. Ses jambes écartées plantées dans le sol. Le temps reste suspendu. Le public retient son souffle et puis, enfin, se déchaîne dans un tonnerre d'applaudissements et de félicitations bruyantes. Lentement, Carmen relâche la pose et respire profondément. Elle se retourne et croise le regard humide de son père. Essoufflée, aveuglé par les spots de lumière et abasourdi par les applaudissements. Carmen sourit au public, sans saisir ce qui est en train de se passer. Elle salue rapidement et, à bout de souffle, s'écroule en sanglots en coulisses. C'est un souvenir qui ne quittera plus Carmen. Celui de ses larmes dans cette loge, mais aussi celui des minutes qui ont suivi. C'est un moment qu'elle gardera en tête tout au long de sa carrière, jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'en 1963, où Carmen s'éteindra dans sa maison à Bégour, sur son lit métallique, coincé entre une pile d'oreillers, pour soulager ses douleurs. La capitana repensera à l'adolescente fougueuse et à fleur de peau qu'elle était. Elle repensera aux traces de maquillage laissées sur sa manche pour essuyer ses larmes dans cette petite loge. Trois petits coups secs. On frappe à la porte. Oups, vite ! Carmen cherche un mouchoir. Elle renifle bruyamment et se frotte frénétiquement les mains sur le visage. La porte de sa loge s'ouvre et l'adolescente manque de s'étrangler en voyant le roi Alphonse XIII dans l'entrebâillement. Ne sachant comment se comporter, elle le fait entrer, libère un siège, lui propose de s'asseoir et s'en mêle dans les phrases de politesse. Le roi la regarde sans rien dire, puis lui sourit sagement. Son attitude n'est pas hautaine, non. Il a juste l'air serein. Il semble attendre que son calme atteigne la jeune fille. Les personnes entourant le roi soufflent à Carmen de l'appeler Sa Majesté. Carmen hoche alors la tête et retrouve toute sa contenance. En fait, de près, le roi a l'air d'être un homme tout à fait ordinaire. Certes, très beau, mais ordinaire. La quarantaine, Alphonse XIII porte ses cheveux légèrement bouclés en arrière et une barbe taillée en pointe. Du haut de son 1,50 m, Carmen semble minuscule à côté du roi qui, lui, est particulièrement grand. Mais la jeune fille n'a plus l'air impressionnée du tout. Elle enfonce son petit corps nerveux dans le sol. Elle plante son regard dans les yeux bleus du roi et, faisant fi des convenances et des indications reçues, elle lui dit « Cette danse était pour vous, monsieur le roi. » Sa Majesté marque un petit temps d'arrêt, décontenancé. Puis, il finit par éclater de rire en secouant la tête. Plus tard, en rentrant chez elle au bras de son père, Carmen a l'impression de flotter. Elle n'entend pas ce qu'il lui dit. Sa médaille autour du cou, elle passe la porte de sa petite maison et entend sa mère s'affairer dans la kitchenette. Carmen est affamée. Elle rêve d'un gros sandwich à la tortilla. Elle rejoint alors sa mère et la découvre avec surprise, un énorme panier au bras. Carmen regarde autour d'elle et s'aperçoit que des victuailles débordent de partout. Des provisions sont étalées sur tout le plan de travail. Sa mère ne semble même plus savoir qu'en faire. Alors que Carmen, à peine adolescente, danse pour aider sa famille à pouvoir se nourrir et qu'elle compte chaque ration ou morceau de pain, cette vision d'abondance semble absolument surréaliste. Mère et fille sont émues. Dans leur petite cuisine, à l'arrière de leur cabane, trônent des paniers débordant de charcuterie, de fromage et de tous les meilleurs produits d'Espagne. Carmen sourit à pleines dents. Gracias, Alphonse. Et cela va peut-être vous sembler saugrenu, mais à partir de ce jour, une réelle amitié s'est nouée entre Carmen et le roi. Alors qu'a priori les deux n'avaient rien en commun, ils se sont pourtant retrouvés à rire ensemble et à festoyer à plusieurs reprises, encore bien des années plus tard. Alphonse, appelons-le comme ça maintenant, a continué à lui rendre visite, même une fois détrôné. En effet, en 1940, après la guerre civile espagnole, Carmen a vécu en exil à Estoril et Alphonse s'est rendu pour la voir. Et même 10 ans après, Alphonse ne s'est jamais lassé de raconter la performance de Carmen lors de l'inauguration de l'exposition universelle. Alors qu'ils discutent en fumant cigarette sur cigarette, il se rappelle comme il avait été absolument bluffé, subjugué. D'ailleurs, ce n'était pas le seul à avoir été séduit. Dès le lendemain de l'inauguration, la jeune femme faisait la une des journaux. Sa danse passionnée avait captivé l'attention de tous et Carmen avait été saluée comme une véritable artiste avec une technique exceptionnelle. Mais à ce moment-là, le 29 mai 1929, l'adolescente de 16 ans ne le sait pas encore. Assise dans sa petite chambre, elle ne se doute pas de la déferlante d'articles de journaux qui va tomber dès le lendemain. Et d'ailleurs, elle s'en fiche. Non, tout ce qui compte, c'est ce qu'elle a là, sous les yeux. Dans la nuit tombante, tous les habitants de son quartier se rassemblent et une petite fête improvisée se met en place. On grille la viande du roi à même les braises. On rit très fort. On fume encore et on chante. Carmen s'est retenue de le faire sur scène, mais ce soir elle se lâche. Elle ôte sa tenue de spectacle, libère les cheveux de son chignon. Elle secoue la tête. Sa tignasse s'en mêle tout de suite et elle adore ça. Elle enfile un short usé, l'air frais de la nuit caresse ses jambes, et elle adore ça. Ses pieds nus se font bouffer par les moustiques, mais elle ne se débat même pas. Ah, voilà, là, là, elle se sent libre. Son père sort la guitare, ses amis tapent en rythme sur tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à des percussions, et Carmen chante, en riant, danse, en pleurant. L'émotion coule le long de ses mouvements, ça. C'est son flamenco. Sous le ciel étoilé, éclairé par la lune, Carmen se félicite pour aujourd'hui. Elle a assuré. Mais elle se fait aussi une promesse. En serrant les doigts très fort dans son dos, la jeune fille se le jure. À partir de maintenant, ce sera elle, comme elle est, à prendre ou à laisser. Hein, cela peut vous sembler un peu radical ou un peu vantard comme attitude. Mais pour qui se prend-elle, du haut de ses 16 ans? Mais n'a-t-on pas besoin de ces femmes fortes pour bouleverser le monde, pour secouer les codes? Qu'on le veuille ou non, l'art n'est-il pas engagé? Ce n'est sans doute pas ce qui motive Carmen à ce moment-là, je vous l'accorde. Mais la décision un peu butée qu'elle prend le soir de l'inauguration donne le ton. Et sans que ça en soit son intention, sa promesse bouleversera le monde du flamenco. Mais le 20 mai 1929, personne n'en a idée. Cette promesse est silencieuse, faite au creux de son cœur, avec elle-même et elle seule.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Carmen Amaya, célèbre danseuse de flamenco. Carmen est née en 1913 et pour que vous puissiez vous en faire une idée, je dirais qu'elle était brune, au visage carré, les traits marqués. Elle était menue, mesurant à peine 1,50 m. Mais elle possédait un corps nerveux et ultra puissant. Carmen était une artiste au style unique. Elle dansait avec un feu incroyable. Elle hypnotisait tous ceux dont le regard tombait sur elle. Bref, elle incarnait l'âme du flamenco. Pour vous décrire Carmen, je pourrais vous raconter qu'elle a triomphé dans les plus grands théâtres d'Europe, des États-Unis et d'Amérique du Sud. Qu'elle a été saluée et admirée par de grandes personnalités du XXe siècle, telles que Charlie Chaplin, Picasso, Jean Cocteau, ou encore qu'elle a dansé à la Maison Blanche. Je pourrais aussi vous dire que malgré cela, elle ne courait pas après la célébrité, et qu'elle était discrète, presque mystérieuse. Elle était généreuse, engagée, et malgré son exposition médiatique et sa renommée toujours plus grandissante, c'est dans l'ombre qu'elle agira jusqu'à sa mort. Je pourrais vous expliquer qu'en 1936, pendant la guerre civile espagnole, Carmen, alors âgée de 23 ans, a été invitée à se produire à Madrid pour des troupes républicaines et qu'elle a accepté, malgré les risques. Ça a eu un tel succès qu'elle est devenue, malgré elle, une figure symbolique de la lutte contre le fascisme. Bon, je pourrais aussi simplement vous dire qu'elle ne se nourrissait que de sardines et de cigarettes. Bref, Carmen, c'était un personnage captivant. Et les anecdotes sont nombreuses. Mais ce que j'étais surtout en train de vous raconter ici concerne la journée du 29 mai 1929. Ce fameux soir où Carmen a dansé lors de l'inauguration de l'exposition universelle de Barcelone. Alors, revenons à cette grande promesse qu'elle s'est faite en rentrant chez elle après avoir été saluée par le roi Alphonse XIII. Il est passé minuit et, allongé dans sa chambre, la fenêtre ouverte, Carmen écoute le bruit des vagues. Elle repense à son malaise face à tout le bling-bling de la salle de spectacle, mais aussi à son sentiment de reconnaissance et à la gratitude qu'elle a ressentie. Elle se remémore le goût des petits fours en coulisses, le goût d'un espoir d'avenir. Elle songe à son aplomb face au roi. Mais elle repense aussi à sa colère en loge, à ses larmes et à la rage exprimée dans sa danse. Carmen comprend alors qu'elle s'est sentie bridée dans les consignes reçues, dans les compromis qu'elle a dû faire pour sa prestation. Poussée par l'envie d'être reconnue, attirée par le succès, elle a tout accepté ce soir-là. Qui pourrait lui en vouloir ? Elle était excitée par cette soirée et cette occasion absolument exceptionnelle. Pourtant, elle réalise qu'elle a eu la sensation de se trahir, de se lisser, pour se faire accepter par un milieu bourgeois qui, bien souvent, oublie les petites gens comme elle. Mais n'y a-t-il pas un juste milieu entre les strass et les paillettes d'un flamenco surfait qui ne lui ressemble pas et une vie de misère ? Carmen se lève, se met à sa fenêtre et un filet d'air s'échappe de sa gorge. La voix rauque de la jeune femme est ronde, chaleureuse. Ses mains se mettent à bouger le long de son corps, petit à petit. Elle le fait un peu plus fort. Sa voix se balade avec le bruit des vagues, ses pas dansent au rythme de la mer. La voix de Carmen danse, les mains de Carmen chantent. Voilà qui elle est. Une adolescente qui ne réfléchit pas, qui ne peut mentaliser son art ou choisir entre deux disciplines, qui se fout éperdument des codes. La danse, c'est son carburant. Le chant, c'est sa respiration. La jeune femme est un petit diamant brut et ce soir-là, face à la mer, elle se promet que plus jamais, elle ne se lissera. Maintenant que le roi l'a validée, elle décide de ne plus jamais se brider. Ce sera elle, en entier, à prendre ou à laisser. Carmen Amaya, la capitana. Le package complet de Somorrostro. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il y a quoi exactement dans ce package ? Eh bien, je vais vous le raconter. Parce que dès le lendemain, les habitants de Somorrostro, qui connaissent bien l'audace de l'adolescente dans l'enceinte du quartier, ont la joie de la voir impétueuse et fidèle à elle-même, à la vue de tous. Cette même année, Carmen est engagée à danser dans plusieurs villes espagnoles, pour ensuite être appelée à Paris. Elle a intégré la troupe de la grande chanteuse Raquel Meller. Elles ont partagé la même affiche pendant 6 mois. Plus tard, en 1935, Carmen fait son entrée au théâtre Coliseum de Madrid. Même le cinéma lui fait du pied. Bref, elle séduit le public et tous les milieux. Pourtant, Carmen est loin d'être une danseuse docile. Elle honorera sa promesse coûte que coûte. Tout d'abord, hors de question de ne plus jouer dans les rues. Alors Carmen, sans rien demander à personne et presque secrètement, prend plaisir à arpenter les villes d'Europe qu'elle découvre. Avant ou après ses prestations sur scène, parfois même au petit matin, la jeune femme s'installe dans le coin d'une place publique et se met à danser. Il y a toujours un musicien pas loin pour l'accompagner à la guitare. Ça fait sourire les passants. Un jour que Carmen danse sur une petite place publique, elle s'offre une pause et en profite pour aller déverser toutes les pièces de monnaie qu'elle a reçues dans les chapeaux des mendiants assis près d'elle. Soudain, elle se fait interpeller. Carmen se retourne et deux policiers lui ordonnent de s'en aller. Allez hop, interdiction de danser dans les lieux publics, dégagez. Mais Carmen est têtue. Elle ne cède pas. Elle tient tête au duo de policiers. Comment ça, elle ne peut plus partager sa passion avec le monde entier, là, dans les rues ? Elle se revoit dans sa chambre à 16 ans, face à la mer, et se souvient. Personne ne lui dira ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire. Elle danse ? Où est le mal ? Cela lui semble tellement absurde qu'elle argumente. Et elle le fait avec calme, sourire et même une certaine naïveté. Elle raconte sa passion et ne laisse aux policiers aucune possibilité de répondre. Finalement, pris court, les agents n'ont d'autre choix que de s'avouer vaincus, et même plus que ça. Ils la regardent faire et, impressionnés par son attitude, ils finissent même par applaudir sa performance. Mais dans son package, il y a quelque chose de plus important encore. Pour honorer sa liberté, dès le lendemain du soir de l'inauguration, Carmen prend une décision importante. Dans sa chambre, la jeune fille récupère la seule et unique robe que ses parents ont mis des mois à lui financer. La fameuse robe qui lui en serrait encore tant la gorge la veille au soir et qu'elle a fait virevolter devant le roi. Elle déboule dans le quartier, frappe à la porte de la cabane de sa voisine et lui offre sa robe. C'est décidé. À partir de maintenant, c'est en pantalon qu'elle montera sur scène. Oui, du flamenco en pantalon, au début du XXe siècle. Aujourd'hui, cela ne paraît peut-être pas tant révolutionnaire que ça, mais lorsque Carmen le fait pour la première fois, son cœur bat la chamade. Elle est consciente que ce n'est pas anodin et que son look ne passera pas inaperçu. Mais la capitana reste convaincue de ce qu'elle fait. Ce sera elle, comme elle est, à prendre ou à laisser. C'est-à-dire en jean, en short ou en pantalon de toile. D'ailleurs, elle n'y voit aucune revendication politique particulière. Elle le fait uniquement parce que... Ben pourquoi pas? Parce que c'est comme ça qu'elle danse, c'est tout. Un soir, au cœur de Séville, la capitale de l'Andalousie, réputée pour le flamenco, Carmen apparaît délestée du poids du costume traditionnel de la discipline. À l'arrière d'un petit bar près de la place Giralda, la robe a disparu. La jeune femme sent son cœur battre dans sa poitrine. C'est bientôt l'heure de monter sur scène. Enfin, ici pour la scène, il s'agit plutôt de quelques planches en bois surélevées. Les tables à os sont des petits bars cabarets, souvent exigus, où les artistes performent les uns après les autres, devant un public qui consomme quelques tapas. On entend d'ailleurs leurs verres s'entrechoquer jusque dans le petit cagibi dans lequel Carmen attend son tour. En bas d'un petit escalier qui mène vers les cuisines, la danseuse patiente entre des caisses et des stocks. L'adrénaline fait hérisser ses poils. Alors que le stress l'avait envahie dans la loge de l'inauguration au point de la faire suffoquer, ici, elle se sent excitée, stressée mais enthousiaste. Elle se sent à l'aise dans son corps, dans son pantalon en toile noire et dans son petit chemisier. Puis enfin, le barman semble avoir entendu sa hâte et Carmen, tout en remontant les escaliers, écoute d'une oreille la petite présentation qu'il fait d'elle. Elle croise le groupe de musiciens précédents, il se sourit, se tape dans le dos et puis elle apparaît au centre de la petite scène. Et ça y est, c'est parti. Carmen avait briefé les musiciens. Jouez dès mon entrée et allons-y tout de suite. Peut-être voulait-elle éviter que le public ait le temps de la reluquer avant d'avoir dansé. Peut-être avait-elle peur d'être déstabilisée. Toujours est-il que, évidemment, ça n'a pas loupé. À peine a-t-elle posé le pied sur les planches de bois que tout le public pousse d'une même voix un « oh » d'étonnement, voire d'effarement. Mais comment ose-t-elle ? Sur scène, Carmen n'entend rien. Elle chante, danse et offre une performance absolument fabuleuse. Sa maîtrise du rythme est stupéfiante. Ses gestes s'enchaînent dans une rapidité vertigineuse. Le choc passé, le public est tout simplement fasciné, subjugué. La danseuse bat des mains et fend l'air avec puissance. Les musiciens ne la quittent pas des yeux et la suivent au micro-geste près. Derrière la concentration et les sourcils froncés de Carmen se dessine un léger sourire sur ses lèvres. Ah, oh, qu'est-ce que c'est bon ! Une petite heure plus tard, au moment de saluer le public, son cœur bat à tout rompre. Cette fois, il bat de joie. Il bat de se sentir vivante. Le lendemain, sa petite prestation, au fin fond d'un petit tablao de Séville, fait la une des journaux. sur les couvertures. On peut voir des photos de ses jambes, des gros plans de ses mollets commentés par de longues critiques et des remarques acerbes. C'est indéniable. Sa tenue suscite la controverse. D'un côté, le choc, on crie même au scandale. À l'époque, le flamenco était un art extrêmement conservateur qui valorisait la tradition et la conformité. Toutes les danseuses de flamenco portaient donc des robes longues et évasées qui soulignaient leur féminité et leur grâce. Alors, Carmen est pointée du doigt pour son irrespect total des traditions. Comment cette petite gitane de Somorrostro se permet-elle de salir leur art? Heureusement, de l'autre côté, d'autres ont tout de suite compris l'intention de Carmen. En aucun cas, elle ne cherchait à offenser le flamenco. On salue son talent et son amour pour son art. D'ailleurs, son pantalon permet d'apprécier d'autant plus son jeu de jambes remarquable. Certains ont même saisi l'importance du moment qu'ils étaient en train de vivre. On admire son courage et son audace de s'approprier, revisiter et imposer son style. Aujourd'hui, sa tenue est devenue une partie intégrante de l'identité de Carmen. Et elle a révolutionné le flamenco. Même si l'adolescente, faisant sa promesse face à la mer, était bien loin de s'en douter. Et Carmen Amaya ne s'arrête pas là. À propos de révolutionner le flamenco, dans son package, vous vous souvenez, il y a aussi l'envie d'enrichir sa danse de styles différents. Alors, elle intègre dans son art de la danse gitane, mais aussi du jazz. Lors d'une tournée aux États-Unis un soir, Carmen se produit dans un club de jazz. Elle décide de faire le pari de fusionner ces deux styles. Alors qu'elle joue sur scène avec son groupe de flamenco, elle invite des musiciens de jazz à les rejoindre. Ils se mettent à improviser ensemble et vous commencez à connaître la chanson. Comme tout ce que fait Carmen, ce concert fait sensation. Les journaux publient des critiques élogieuses et Carmen Amaya devient rapidement une vedette de la scène musicale américaine. Des moments comme ça, il y en a des tonnes. On pourrait parler de Carmen pendant des heures. Et j'aime à penser que cette promesse, cette petite minute face à la mer, tire le fil d'une vie aussi rocambolesque que tendre et magique. Une vie trop intense peut-être, pour pouvoir durer longtemps. En 1963, à 34 ans, la fabuleuse Carmen Amaya s'effondre sur scène à Mexico. Son amoureux, Juan Antonio, la convainc de rentrer en Espagne. On lui diagnostique une insuffisance rénale. Quelques mois plus tard, la danseuse meurt dans sa maison à Bégour, sa main dans celle de Juan. Ce fut une journée de deuil national et des milliers de personnes entreprirent un pèlerinage sur les sentiers escarpés de la montagne où elle est décédée. S'il y avait autant de monde ce jour-là, c'est peut-être parce qu'au-delà de tout son talent, son petit package débordait de générosité. Déjà enfant, Carmen rentrait chez elle à l'aube avec une miche de pain sous le bras pour la donner aux mendiants de Somorrostro. En 1959, Barcelone lui avait rendu hommage en baptisant la fontaine du Paseo Marítimo à son nom. Le même soir, un récital avait été offert au Palo de la Musica. Mais certains gitans de son quartier s'étaient vus refuser l'entrée de l'auditorium car ils n'avaient pas un sou sur eux. Alors, Carmen était retournée à Somorrostro et avait passé la nuit à danser pour eux au milieu de la rue. Quand je vous disais que Carmen Amaya incarnait l'âme du flamenco. Voilà pour ce récit flamboyant que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Amélie Dieudonné.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.